Donc bonjour à tous et bienvenue aux Utopiales. Donc on va ouvrir le festival autour d'une table ronde sur la science-fiction transcende-t-elle les frontières. Donc à ma gauche, Eric Lhomme, Vincent Gessler, Jeanne Deba et Juan Miguel Aguilera. Et
Christophe,
le traducteur de Juan Miguel Aguilera. Mais comme je n'avais pas très bien entendu le prénom. Donc, sur la science-fiction transcende-t-elle les frontières, on part sur la science-fiction en se disant que l'imagination pourrait nous permettre d'aller au-delà, de dépasser le concept même de frontières. Or, on retrouve cette thématique de façon centrale dans énormément de livres de science-fiction, notamment dans le space opéra. Et du coup, on va se demander si la science-fiction peut-elle réellement transcender les frontières. Donc tout à l'heure, en préparant un peu, on se disait qu'il était peut-être pas mal déjà de partir sur le concept de transcendance. Donc on va essayer d'esquisser déjà une petite définition ou d'opposer nos positions. Donc la transcendance est ce qui permet de dépasser à partir d'un concept prédéfini la conception première pour arriver à une position qui n'était pas tenable auparavant. Une utilisation classique dans la philosophie, ça va être la transcendance de Dieu qui n'est pas dans le monde, mais qui n'est pas non plus hors du monde en tant que son créateur, par exemple. Donc, s'il y a des gens qui veulent... Vas-y. Non, je...
Ah oui, c'est vrai, j'étais pas d'accord. Non, la première question qui me venait à l'esprit, c'était est-ce que cette notion de transcendance, elle s'applique à un objet matériel ou à concret ou de l'ordre de la fiction? Si on fait abstraction de la métaphysique ou d'une donne spirituelle, est-ce que le mot transcendance est bien choisi dans ce cas?
On peut peut-être se poser la question aussi si le terme de frontière lui-même est un concept matériel ou si c'est pas plutôt un concept métaphysique ou au moins philosophique qui n'a pas de réalité matérielle. Est-ce que c'est pas plutôt une idée?
Moi, si on commence à parler de Dieu, de métaphysique, je sors. Je vous préviens. Tout de suite. C'était mon intervention. Continuez.
Comment tu veux continuer?
Non, mais c'est rigolo. Il te pose la question de savoir ce que tu entends définir par transcendance. Et puis là-dessus, tu lui réponds, oui, mais on va définir la frontière. Je t'ai vu, hein. Donc, définis transcendance autrement.
Du coup, pour la définition de la transcendance, sur un concept, sur quelque chose de matériel, comment ça peut s'appliquer? Je pense réellement qu'il faut que c'est un concept qu'on applique à l'homme et aux doctrines qui sont appliquées à l'homme, mais on peut pas. Je pense qu'on peut pas transcender une table, par exemple.
Oui, puis la transcendance du vermisseau, c'est pas terrible non plus, mais. D'accord. Enfin, moi, la question que je voyais poser en fait dans le débat, c'était de quelle façon la science-fiction peut traverser, aller au-delà des frontières. Je suis bête, hein, je suis cartésienne, j'allais pas plus loin que ça.
D'accord.
Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur ce sujet-là?
Carrément.
S'il vous plaît.
Allô. Ouais, ça marche ou pas? Ah oui, moi pareil.
Et ben, c'est parti.
Ça marche, Eric?
Oui, c'est très bien, parce que c'est vrai que. En fait, en accolant transcendance et frontières, on met côte à côte deux termes qui n'ont pas le même niveau d'abstraction. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour revenir à une définition plus simple.
Oui. Hein.
Bueno, yo me he perdido un poco con lo de la trascendencia, pero lo que quería decir. Il s'est un peu égaré avec l'idée, le concept de transcendance.
Pero en, desde un cierto punto de vista, para mí, la ciencia ficción, si la puedo definir de alguna forma, es la literatura de la frontera.
D'un certain point de vue, pour moi, la science-fiction est la littérature de la frontière.
A menos la ciencia ficción que a mí me ha interesado siempre.
Du moins la science-fiction qui moi m'a toujours intéressé.
Yo empecé leyendo los novelistas del siglo XIX cuando era muy joven.
J'ai commencé par lire les romanciers du XIXe siècle quand j'étais très jeune.
Julio Verne, Sabatini,
Jules Verne, Sabatini, Stevenson.
Y era esa idea de encontrarte, del viajero, que se encuentra con algo extraño que le hace replantearse su propia realidad.
C'était le fait de se trouver confronté avec quelque chose d'étrange ou d'étranger qui remettait en cause la propre identité.
Yo creo que cuando alguien está encerrado en su propia realidad, es incapaz de comprenderla del todo.
Quand quelqu'un est enfermé dans sa propre réalité, il est incapable de comprendre en fait ce qui l'entoure ou le monde extérieur.
Solo cuando se viaja y se contempla tu realidad desde otro punto de vista, desde otra perspectiva.
C'est uniquement quand on voyage et quand on regarde la réalité sous un autre angle, sous une autre perspective.
On va se retrouver dans Star Trek, hein, au fond de l'étrange, sur d'autres mondes étranges, pour trouver de l'inconnu, du nouveau, je ne me souviens plus exactement.
Sí, sí, el espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave espacial Enterprise. Sí, exactamente, me encantaba. Siempre he sido de Star Trek y no de Star Wars.
Il est plutôt, il préfère Star Trek à Star Wars.
Para mí era eso. De hecho, cuando empecé a escribir en novela histórica,
quand j'ai commencé à écrire des romans historiques,
encontré algo muy interesante que eran los relatos de viajeros, de viajes maravillosos en la Edad Media.
Ce qui m'a beaucoup plu, c'était tous les récits merveilleux du Moyen Âge.
Desde Marco Polo, Rubruck, Pian de Carpine.
Par exemple, Marco Polo.
Rubruck, Pian de Carpine. Bueno, otros viajeros que lo que hacían era que los conceptos medievales, al ser enfrentados a otras culturas,
en fait, les concepts médiévaux, quand ils se trouvaient confrontés à d'autres cultures,
los hizo evolucionar. Es decir, es cuando empieza el Renacimiento.
Les faisait évoluer, en fait. C'est le point de départ un peu de la Renaissance.
Y para mí esa es la esencia de la ciencia ficción. Para mí hay otra ciencia ficción.
Pero para mí c'est l'essence de la science fiction.
Es ese enfrentamiento entre lo que damos por supuesto, lo que conocemos y lo extraño.
C'est le fait de se confronter, de confronter ce que l'on connaît depuis toujours avec ce qui est en fait étranger, extérieur.
Quelqu'un veut-il intervenir derrière ça?
Il parle bien, hein, Juan Miguel.
Bah oui, volontiers.
Le monsieur dit, est-ce que ça ne serait pas nous qui sommes les étrangers? C'est ça? Non, 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 Georges, tu n'interviens pas sur quelqu'un d'autre, s'il te plaît.
Bon.
Il y a quelqu'un qui veut réagir à ça? Est-ce que...
Bon, je crois que j'ai pas bien compris la question de si c'est nous qui sommes les étrangers. Est-ce que l'être humain, l'altérité, tout ça, c'était la question?
Merci. Oui, je disais peut-être que nous, hommes, ne sommes peut-être pas les mieux placés pour parler d'étrangers, alors que c'est nous qui arrivons avec nos gros sabots, et peut-être pas dans les meilleures conditions. Pour voir les autres.
Mais arrivons où?
Oui, hein, on n'a encore pas débarqué sur Mars.
Je crois pas.
Enfin, non. Pas vraiment.
Enfin, non. Enfin.
Hein?
Pas vraiment, on aimerait la faire.
Et là, nous sommes chez nous, nous sommes bien d'accord.
Oui, mais bon. Nous sommes aussi dans un cadre de science-fiction.
Okay. Là,
peut-être pour rebondir sur ce que disait Juan Miguel tout à l'heure... pour recentrer sur les thématiques des récits de science-fiction, je me reconnais bien dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire que le récit de science-fiction, c'est un récit qui joue avec la limite, avec la frontière, et puis qui met en scène un récit qui jouera sur des limites soit de normes sociales, philosophiques, d'expériences littéraires aussi, ça peut jouer à tous ces niveaux-là. Alors cette notion de transcendance qu'on a un petit peu recadrée au début, peut-être au fond, on peut dire que plutôt que de transcendance, il s'agirait de jouer avec les frontières, jouer avec les limites, Et en ce sens, je crois que la science-fiction, elle se fait une spécialisation. Les récits de science-fiction s'en font une spécialité de jouer avec les frontières, les limites, pour arriver à une sorte de motif fractal un peu qui se déploie, puis qui nous amène à une sorte de vertige cognitif. Lorsqu'on a un récit de science-fiction qui met en scène la rencontre, pour rester dans la thématique de monsieur d'une race extraterrestre, ben on peut de cette manière avoir un miroir réfléchissant qui fait sans arrêt un aller-retour avec notre propre identité qui la questionne.
Moi je vais juste te dire un truc là qui vient de me surgir et qui est peut-être complètement complètement un bateau, mais bon, la science-fiction américaine des années 40-50 est clairement une science-fiction de la frontière, et c'est pas un hasard à mon avis, puisque c'est une civilisation, la civilisation américaine de la frontière, ce sont des pionniers. La rencontre avec l'autre, ils l'ont eue, malheureusement pour l'autre, puisque de 21 millions d'Indiens, on est passé à 1 million, je crois, après leur passage. Ça fait un bel avatar comme film. Voilà, c'était juste tout ça que je voulais dire. Je m'arrête.
Il y avait Juan qui voulait.
Non, solo quería hacer un apunte a lo que ha dicho.
Je veux juste faire une remarque par rapport à ce que disait.
La ficción juega con la frontera.
Par rapport au fait que la science-fiction joue avec l'idée de frontière.
Siempre que jugamos con algo, acabamos rompiéndolo.
Dès que l'on joue avec quelque chose, on finit par le casser, en fait.
Y yo creo que la esencia también de la ciencia ficción es romper las fronteras.
Et l'essence même de la science-fiction, en fait, est de briser les frontières.
Una de las razones por las que es tan difícil definir la ciencia ficción es porque tiende a romper fronteras entre géneros. No hay una forma clara que sea.
Il est question aussi de briser les frontières entre les différents genres.
Y romper la frontera también, tu interpretación de la frontera como la conquista de América es una interpretación justa, pero no es la única de la frontera.
L'interprétation de la frontière également par rapport à ce qui était dit précédemment sur les États-Unis.
Para mí la frontera implica.
Pour moi, la frontière implique.
La relativización de nuestro conocimiento en relación al conocimiento de otros.
La remise en cause de nos propres connaissances par rapport aux connaissances d'autrui.
Pour répondre à Juan Miguel, la frontière, on peut la replacer beaucoup plus, de façon beaucoup plus proche, cercana. On peut la trouver à l'intérieur de soi. En général, ça, c'est ma science-fiction. C'est la frontière qu'on va refuser de nous laisser limiter. La plupart du temps, moi, mes histoires en tant qu'auteur, c'est quelqu'un qui arrive à un point qui fait que plus, ça n'est plus supportable. Et que par conséquent, on va traverser le mur et on va tout exploser d'un coup d'épaule. Ma science-fiction, c'est celle-là. C'est celle qui transcende la frontière intérieure. Voilà.
Moi, ce qui me paraît important dans tout ça, c'est que c'est justement les frontières. Les frontières sont essentielles, sont très importantes, parce que pour pouvoir raconter quelque chose, pour avoir quelque chose à dire, pour pouvoir transcender, pour pouvoir briser ou dépasser, il faut qu'elles existent. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qui pourrait exister dans une science-fiction où il n'y aurait plus de frontières ? Il ne se passerait plus grand-chose.
Ah. Et du coup, il ne se passe plus rien, t'as vu ?
Ça pose peut-être la question de ce qui définit la frontière. La frontière, c'est toujours un moment de rencontre ou de dépassement de soi par rapport à ce que dit Jeanne, de dépassement peut-être des genres et des projets, pour Juan Miguel. Oui, pour qu'il y ait une frontière, il faut en tout cas qu'il y ait une rencontre et éventuellement après dépassement de quelque chose. Alors après, si on l'applique à la science-fiction, je trouvais intéressant la piste qui avait été lancée d'appliquer ça à la notion de genre. De quelle manière on peut jouer sur un dépassement des genres. Alors là, c'est peut-être un peu casse-gueule.
Je pense qu'on peut.
Tu vas pas te retrouver les bras en croix sur une porte de grange, rassure-toi, parce que t'auras mis des sensiers sur l'Enterprise. Mais à mon avis, de plus en plus, effectivement, la science-fiction explose les frontières ses propres frontières à l'intérieur d'elle-même, puisque le sorcier sur l'Enterprise, on n'en est pas super loin. Dans les derniers romans qui sont sortis, on trouve à la fois de la magie qui est clairement teintée de physique quantique. Je pense au Nom du Vent de Rothfuss, par exemple, qui, à mon avis, est un grand roman de fantasy, mais à l'intérieur, il y a des bases, des frontières nettement science-fictives. Et de plus en plus, je vois les auteurs, notamment anglo-saxons, effectivement, une fois de plus, exploser les frontières et aller voir ce qu'il y a sur l'autre rive. Cela dit, il est clair que les frontières nous définissent. Et pour trouver une nouvelle définition, il faut forcément les casser.
Donc là, en somme, on parle de se réinventer et puis de, à travers la notion de frontière, ce qui serait intéressant, ce serait de voir chacun, à travers son travail, comment il réélabore cette idée. Ouais, je refais. Ce serait intéressant de voir chacun, mais c'est pas moi l'animateur.
Je crois qu'il proposait de voir comment les quatre auteurs qui sont avec moi essayent de travailler ce dépassement de la frontière dans leur propre œuvre. Et je crois Jeanne a déjà expliqué que c'était sur une frontière intérieure qu'elle travaillait et du coup. En partant du présupposé que toute œuvre de science-fiction dépasse une certaine frontière, comme ce qui semble se dessiner ici. Et du coup, la question, c'est vous, comment vous la dépassez ? Quelle frontière vous essayez de dépasser ? Vas-y, Eric.
C'est vache. Pour moi, en tout cas, dans mes livres, la frontière a une très grande importance parce que j'écris déjà à la frontière de genres différents et d'âges différents. En écrivant pour la jeunesse, j'écris des livres qui sont lus par des jeunes et par des adultes. Là, il y a cette notion de frontière. À partir de quel moment est-ce que on écrit, ce qu'on écrit peut intéresser des adultes, à quel moment ça ne s'adresse qu'à la jeunesse. Bon, c'est une frontière qui, c'est un exemple de frontière qui pour moi doit être cassée, repoussée, une frontière, un tiroir en fait, en quelque sorte.
Là je suis tout à fait d'accord avec toi puisque j'écris aussi en jeunesse autant qu'en adulte et que mon dernier roman, la grande question ça a été... Où est-ce que, dans quelle collection on allait le placer, pour adulte ou pour jeunesse. Et finalement, on l'a mis en adulte pour que tout le monde le lise. En fait. Oui. Parce qu'à l'intérieur des lecteurs de science-fiction, nous avons pu constater de nombreuses fois qu'il y a une énorme frontière entre le lectorat adulte et les œuvres jeunesse. Le passage de la jeunesse au lectorat adulte est très difficile. On dirait que nos collègues ont beaucoup de mal à envisager l'existence de la jeunesse. Mmh. Et pourtant, ça, c'est le terreau dans lequel va se bâtir le futur lectorat. Hein. C'est...
Oui. Mais en même temps, cette notion de frontière fluctue et on retrouve des poupées russes, un peu les poupées russes, puisque c'est une conception que les anglo-saxons ont beaucoup moins. Un auteur comme Pullman, qui en France est connu essentiellement comme un auteur jeunesse, chez lui, il est considéré comme un auteur tout court, en fait. C'est vraiment une spécialité française d'établir ce genre de frontières, en tout cas. Bon, je me trompe peut-être.
C'est amusant que tu dises auteur tout court, on n'est pas des sous-auteurs qu'on écrit en jeunesse. Je tuerais le premier qui essaye de me le descendre.
C'était tout à fait volontaire et ironique de ma part. Oui, souligne un trait, c'est aussi une frontière.
Bien, volviendo a tu pregunta.
Pour revenir à ta question.
En mis novelas, creo que el tema de la frontera está en todas mis novelas, es el tema esencial.
Je pense que le thème de la frontière est présent dans tous mes romans, c'est le thème essentiel de mes romans.
En mi novela Rila, por ejemplo.
Dans mon roman Rila.
Describo el viaje de un musulmán de.
Je décris le périple d'un musulman.
De Granada.
De Grenade.
De la corte de Granada.
De la cour de Grenade.
América y un encuentro de su cultura con la cultura de los aztecas.
Donc il voyage jusqu'en Amérique et qui se trouve confronté en fait à la culture aztèque.
Un poco el sentido de la historia es hasta qué enfin, cómo definimos la civilización.
Le sens de ces récits en fait c'est comment est-ce que l'on définit une civilisation.
¿Qué es civilizado y qué no es civilizado?
Qui est civilisé ou non.
Y cómo es interpretada esas cosas desde distintos puntos de vista hasta que al final.
Y comment tout cela est interprété selon les différents points de vue.
Esto ha sucedido muchas veces en nuestra historia. Antes hablabas de la película Avatar. Que...
C'est arrivé de nombreuses fois dans notre histoire. Tu parlais tout à l'heure du film Avatar.
Esto es algo que ha sucedido. Tenemos historias como en el cine, como un hombre llamado caballo, Pocahontas.
C'est quelque chose qu'on a vu déjà plusieurs fois au cinéma, comme Pocahontas.
Pero hay casos reales. En el caso en España, hay el primer español que llegó a América.
Il y a également des cas réels, hein, puisque le premier espagnol qui a débarqué en Amérique.
Era Gonzalo Guerrero, que fue en un naufragio.
Gonzalo Guerrero.
Que llegó a América, no, perdón, que llegó a México.
Que est arrivé au Mexique.
Fue Gonzalo Guerrero, que en un naufragio fue arrastrado junto con otros compañeros hasta el Yucatán.
Qui a fait naufrage et qui a été entraîné sur les côtes du Yucatan.
Y él fue capturado como esclavo.
Il a été capturé comme esclave.
Acabó convirtiéndose en capitán de guerra de los mayas.
Et il est devenu capitaine de guerre chez les mayas.
Y murió luchando contra los españoles de Hernán Cortés cuando
il est mort en affrontant les troupes d'Hernán Cortés du côté des mayas. Donc.
Eso es un hombre de la frontera, a fin de cuentas.
Et finalement, c'est un homme de frontière.
Y esos casos existen en la realidad. Mi última novela, La red de Indra.
Mon dernier roman, donc Le filet d'Indra.
Está bien otro enfoque de la frontera. Son personajes actuales.
C'est une autre perception de la frontière, puisqu'il s'agit cette fois de personnages actuels.
Personajes como los que estamos ahora aquí hablando.
Comme nous autres.
Y de repente, por un objeto científico podemos llegar a comprender la auténtica estructura de nuestro universo.
Et tout à coup, à partir d'un objet scientifique, on arrive à comprendre la véritable nature de notre univers.
Viajar tan lejos que eres capaz de ver en perspectiva el lugar que ocupas.
Il s'agit de voyager de tellement loin que finalement on arrive à voir en perspective quoi donc?
El lugar real que ocupas en ese en el todo.
L'endroit réel que l'on occupe en fait dans le tout, dans le...
Entonces, para mí también eso es esa es la esencia de la frontera, es decir,
c'est l'essence de la science-fiction.
Sacar un personaje de su entorno cotidiano.
En fait, extraire un personnage de son environnement quotidien.
Y situarlo en otra perspectiva.
Et le situer dans une autre perspective.
Pero yo creo que la ciencia-ficción haga lo que haga, incluso aunque escriba una novela post-atómica, lo que
mais
sea.
Mais je pense que la science-fiction, quoi qu'elle fasse, mais qu'il s'agisse d'un roman post-atomique ou autre chose encore.
Hace siempre exactamente esto.
Tourne toujours en fait autour de cette idée-là.
Nos saca de nuestro mundo cotidiano.
Elle nous sort de notre monde quotidien.
Y nos enfrenta a unas posibilidades que se ha inventado un escritor.
En fait, tu es en train de dire que la science-fiction est un oxymore.
Estás dice.
C'est peut-être ça la transcendance.
Si ça se trouve. Et du coup, toi, Vincent,
ce qui a été dit me fait penser que cette notion de frontière, elle fait vraiment passer d'une zone qui est connue à une zone inconnue, ou alors une zone qui est connue mais comme altérité, comme quelque chose qui nous met en cause. Et ce passage du connu à l'inconnu, irrémédiablement me fait penser à toutes les thématiques sur l'identité et la mémoire. On est dans un monde de repères, dans un monde de références qui nous appartient, qu'on manipule, qu'on maîtrise et qui nous définit. Et cette notion de frontière, elle met en cause pas seulement l'univers connu, mais également nous-mêmes, le rapport qu'on a à notre monde. Alors, ça c'est une thématique qui me parle beaucoup, que j'ai aussi pu mettre en scène. On peut le faire d'une métaphore très géographique aussi, le personnage de l'explorateur, ça rejoint ce que disait Jeanne tout à l'heure avec cette frontière qu'on repousse sans arrêt vers l'ouest, qui met en scène des personnages de pionniers avec ces notions de fort de frontière, où le personnage solitaire ou en petit groupe fait une avancée et puis peut en même temps qu'il voyage évoluer lui-même.
Mais là, dans ce cas-là, il me semble que les frontières ne sont pas transcendées mais repoussées.
Oui, en fait,
c'est-à-dire
oui.
qu'on transporte sa frontière avec soi et on l'étend.
On peut se poser la question.
Ça, c'est plutôt une logique de contamination, en fait, d'épidémie.
Oui. Ben oui.
Ou est-ce que dès le moment où on arrive dans un espace qui ne nous appartient plus, est-ce que là, il n'y a pas justement une forme de transcendance qui se joue quand on doit se réapproprier
Je reprenais l'exemple de l'Amérique du Nord. Les pionniers sont arrivés, ils n'ont pas transcendé la frontière, ils l'ont repoussée. Ils ont fait avancer leur frontière, ils n'ont pas changé au contact de ceux qu'ils rencontraient, ils les ont...
En revanche, le capitaine espagnol dont parlait Juan Miguel, lui, il a transcendé.
Oui,
même,
en fait,
même s'il s'est fait éclater la tête à la fin.
Je suis pas tout à fait d'accord. Il ne l'a pas transcendé. Il est passé de l'autre côté de la frontière et il s'est battu de l'autre côté.
Alors, ça implique pas une transcendance de ses valeurs, justement, ce passage.
C'est une transcendance personnelle, quand même. Ah oui, malgré tout.
Enfin, j'ai l'air d'affirmer des choses. En fait, je pose également des questions. Ouais.
No estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
Probablemente esto fue así en el caso de las fronteras anglosajonas. No me quiero meter.
Ça peut être été le cas en ce qui concerne les frontières anglo-saxonnes.
Ahora mismo en Estados Unidos.
Actuellement aux États-Unis.
Se habla inglés. Nadie. No encuentras, imagino, ningún sitio donde se hable Sioux o se hable.
Il n'y a plus d'endroits où les langues amérindiennes sont parlées pratiquement.
En México, por ejemplo,
au Mexique, par exemple,
el náhuatl, que era la lengua de,
le náhuatl,
que era la lengua de los aztecas,
qui était la langue des aztèques,
es una lengua viva hoy en día,
est une langue vivante toujours.
Encuentras carteles en las carreteras.
Il y a des panneaux au bord des routes qui sont dans cette langue.
En el sur, en México, se enseñan las escuelas. Hay niños que aprenden el maya al mismo tiempo que aprenden.
Au sud du Mexique, dans les écoles, on apprend toujours la langue maya.
Y esa lengua ha influido muchísimo en el español, tanto el náhuatl.
Y ces langues ont eu beaucoup d'influence sur l'espagnol.
Hay muchas palabras en español que provienen del náhuatl o del maya.
Il y a beaucoup de mots de la langue espagnole qui proviennent de ces langues.
También hay palabras en toda Europa que
en français aussi, tu sais.
Francés también. El chocolate es una palabra náhuatl.
En français également, puisque le chocolat, par exemple, est un mot d'origine náhuatl.
Pero ahí está lo que iba a decir. Es decir, pensamos que no, pero siempre nos contaminamos de ese contacto.
On n'y croit pas toujours, mais en fait, il y a toujours une contamination par rapport à tous ces contacts qui ont lieu.
El contacto siempre es en dos direcciones. Está claro que como.
C'est toujours dans deux directions.
Que como plantean en la serie Star Trek, lo siento, pero soy aficionado.
Par contre, pour ce qui est de la série Star Trek, je suis désolé, mais je suis un grand amateur.
Históricamente,
t'inquiète pas, moi aussi.
Históricamente, siempre que dos civilizaciones han encontrado.
Historiquement, dès que deux civilizations ont été en contact.
La que es más débil acaba absorbida o dominada por la más fuerte.
La plus faible finit par être absorbée, dominée par la plus forte.
Esto ha pasado siempre y pasó en América cuando los.
C'est toujours arrivé. C'était le cas, par exemple, en Amérique.
Cuando los aztecas destruyeron la civilización de los toltecas.
Quand les aztèques, par exemple, ont détruit la civilisation des toltecs.
Il y a le cas épineux des Grecs et des Romains, quand même.
Los romanos absorbieron parte de la cultura de los griegos, pero
les romains ont absorbé une partie de la culture grecque.
Pero otra parte perdieron los griegos su esencia, su independencia.
Mais par ailleurs, les Grecs ont perdu une partie de leur essence et de leur identité.
O que le pregunten a Espartaco, que era.
Il suffit de demander de poser la question à Spartacus.
Malgré tout, la culture grecque a été très fortement implantée à Rome. C'était des professeurs grecs qui enseignaient aux futurs dirigeants. Romain. Par conséquent, on ne peut pas dire que ça, c'est juste une légère contamination. Là, la contamination a été fondamentale.
Sí, la contamination. C'est un peu ce que je dis.
C'est un peu ce que je suis en train de dire, en
fait.
Ça dépend de l'équilibre.
En lequel se encuentran estas dos civilizaciones. Par exemple, en le cas de.
Qui existe entre ces deux civilisations.
Grecia et Roma. Estoy seguro
de que. De Rome et de la Grèce.
De que los romanos también se influyeron mucho por la civilización de los cartagineses.
Je suis également persuadé que les romains ont été très influencés par les cartaginois.
Pero esa influencia ahora igual a nosotros se nos escapa, la hemos perdido.
Mais peut-être qu'on n'a plus conscience tout à fait de cette chose-là.
Finalmente, el resultado para los cartagineses fue la extinción.
Finalement, le résultat pour les cartaginois, ça a été l'extinction.
En el caso de los griegos, fue la dominación militar.
En ce qui concerne les Grecs, il y a eu une domination militaire.
Y finalmente, sí, los romanos se vieron contaminados totalmente por la cultura.
Et finalement, effectivement, les romains ont été influencés énormément par la culture grecque.
Lo que planteo es que no, al contrario de lo que decías, no hay ese empuje.
Ce que je veux dire, c'est contrairement à ce que tu disais, il n'y a pas une poussée.
Ese empuje aséptico de la frontera.
Aseptisé.
No es real.
De la frontière.
Siempre hay una contaminación.
Il y a toujours une contamination.
Oui. Oui, je suis d'accord.
Il n'y a pas un déplacement aseptisé, mais
oui, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de déplacement aseptisé, mais pour reprendre l'exemple que tu donnais tout à l'heure, effectivement, on voit des panneaux dans les deux langues au bord des routes, mais comme tu dis, ce sont des panneaux au bord des routes. Les panneaux et le bord des routes ont été, ça a été apporté par ceux qui ont conquis, qui ont des chemins, je pense, des routes, je ne suis pas sûr. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que c'est toujours les codes dominants de ceux qui ont repoussé la frontière, qui ont déplacé leur frontière, même si forcément au contact de
lo que digo
il y a contamination.
Siempre hay una civilización que es tecnologicamente. Imaginemos ahora mismo el caso
de
América.
Il y a toujours une civilisation qui est technologiquement plus avancée. Ou...
Sí, exactamente. Mm-hmm. Imaginemos que ahora mismo aterriza un platillo volante.
Il suffit d'imaginer une soucoupe volante qui atterrirait aujourd'hui.
Non, un montón de platillos volantes.
Non, des milliers, des milliers de
soucoupes
volantes.
Vamos a echarle presupuesto a la tarde.
Ou des millions, allez, allons-y.
Todo el mundo.
Donc une grande quantité de soucoupes volantes qui atterrissent.
Nos colonizan totalmente.
Sur Terre, qui nous colonisent.
Destruyen nuestros templos porque dicen que nuestro Dios es falso.
Donc ces extraterrestres vont détruire nos temples.
Et en su lugar construyen sus templos al dios
et à la place ils vont ériger des temples en l'honneur de leur dieu
qui est le dieu de los
on passe de Star Trek
qui serait le dieu des extraterrestres.
Bien, la question
ici,
los extraterrestres estos se sienten aunque nos hayan impuesto su cultura,
si les extraterrestres, même s'ils ont imposé leur culture,
porque ellos son tecnológicamente superiores,
car ils sont bien supérieurs d'un point de vue technologique, est-ce qu'il y a des rapports, des échanges, ou est-ce qu'ils sont totalement imperméables à la culture locale, la nôtre donc?
Je vais être chiante. Il y a le cas épineux de District 9. District 9, c'est un film, sud-africain, je pense, que je ne sais pas si la salle l'a vu. Il y a des candides.
Dans la mission
je le raconte vaguement.
Vas-y.
Bon, c'est un vaisseau spatial qui arrive au-dessus de Johannesburg, ce qui est quand même une énorme originalité, puisque d'habitude ils atterrissent à New York ou à Washington. On leur avait pas donné le plan, je suppose. Mais ça tombe bien parce qu'en fait, c'est des extraterrestres clairement, dans un état lamentable. Ils arrivent dénutris, ils arrivent malades. On pense que c'est... Non, Georges, ne m'interromps pas, par pitié. Ce sont des boat people, c'est ça que tu disais ? Ouais, merci Georges, finalement, excuse-moi. Et donc, on finit par les extraire du vaisseau dont ils sont incapables de redescendre, et on les met dans des townships, et dont ils vont essayer désespérément de s'échapper, parce qu'au final, on va leur appliquer exactement le même traitement qu'aux Noirs en Afrique du Sud. Voilà. Oui, en Afrique du Sud. Oui, je suis vraiment fatiguée. Il ne faut pas faire des tables rondes à 10h du matin, c'est horrible.
Mais
ça,
si,
c'est
mais
de
si.
La transcendance de frontières que je trouve limite, franchement. Bref, là, on est dans le cas où on arrive avec une civilisation extraterrestre qui, au départ, a tous les éléments pour être technologiquement supérieure et qui se fait quand même ramasser la gueule sombrement par des sauvages, c'est-à-dire nous. Voilà.
Mais ils ne sont pas des millions, hein.
Non,
il n'y a pas de millions de soucoupes volantes.
Certes, mais elle est grosse. Hein,
Mais même sur l'allégorie avec... Rome et Athènes. Enfin, au final, c'était Athènes qui était la civilisation qu'on pourrait dire la plus avancée. Et au final, c'est Rome qui a gagné.
Est-ce que Athènes était la civilisation la plus avancée ? Ça reste à définir dans le sens où est-ce qu'une civilisation où les pays sont seulement des cités, où il n'y a pas de gouvernement central, qui repose sur la mise à l'écart de 80% de la population des décisions. Est-ce que c'est vraiment une civilisation plus avancée ? Ils étaient plus raffinés d'un point de vue de l'art, du point de vue philosophique, et encore que ça peut se discuter. Leur langue était d'une finesse largement supérieure à celle du romain, qui est une langue vraiment d'une simplicité enfantine, on va dire. Même si mes élèves
sont...
Voilà, même si mes élèves ne seraient pas d'accord. Mais... finalement, est-ce que les Grecs étaient plus avancés ? On pourrait se poser la question. Moi, je ne l'ai posé que pour emmerder, hein, je tiens à le dire.
J'aimerais dire par rapport à ça que on disait que les Romains avaient gagné militairement, mais que les Grecs avaient gagné culturellement. Je ne sais plus quelle était la citation exacte.
La Grèce a conquis son farouche vainqueur. Waouh.
Voilà. Mais par contre, quelqu'un voulait parler ?
Juste pour dire que même du point de vue militaire, du point de vue technologique, les Grecs étaient supérieurs aux Romains, mais ils ne l'étaient pas du point de vue du nombre, et c'est par le nombre qu'ils ont été vaincus.
D'accord, merci. Là où je trouve intéressant la métaphore de la petite histoire qui a été donnée par Juan Miguel et ensuite par Jeanne en évoquant District 9, c'était de recentrer ce qui a été dit sur la frontière et puis sur ces dépassements de soi, ces référents culturels, et de quelle manière la science-fiction elle permet de s'approprier ces dynamiques-là et puis ces valeurs. Et j'ai l'impression que la science-fiction, c'est justement un lieu, un espace littéraire, un espace de culture où peuvent se réélaborer ces réflexions, ces notions, etc. Pourquoi ? Parce que, à mon sens en tout cas, la science-fiction, elle a un pouvoir d'image, d'évocation, d'idées, de mise en perspective, qui permet à ces idées-là d'être, j'ai passé le mot transcender le meilleur, mais en tout cas d'être mûri, d'être maturé, de subir des sortes de modifications un peu alchimiques.
Sí, ben, exactement, estoy de acuerdo.
Exactement, je suis d'accord.
Nos hemos ido un poco por las ramas y por...
On s'est un petit peu égaré, enfin on s'est un petit peu éloigné du sujet.
Pero la esencia, el tronco, para mí,
mais l'essence, pour moi, le principal.
Fuera de las metáforas muy evidentes con nuestra propia historia.
En dehors des métaphores très évidentes par rapport à notre histoire,
c'est la ciencia-ficción como tal es una literatura de frontera.
C'est que la science-fiction est une littérature de frontière.
Aunque sea de frontera intelectual.
Même s'il s'agit d'une frontière intellectuelle.
L'explicación es muy sencilla. La ciencia ficción responde a los cambios de nuestra sociedad y los proyecta al futuro para ver cómo nos afecta.
La ciencia ficción responde aux changements de notre société et se projette en fait dans le futur par rapport à tout cela.
Una de las razones es que dicen que la realidad ha superado a la ciencia ficción.
On dit souvent que la réalité a dépassé la.
Cuando yo era
science fiction.
Cuando yo era joven, el año 2000.
Quand j'étais jeune. Pour moi, l'an 2000
era una frontera que pensabas que a partir de ahí iba todo a cambiar.
Était une frontière, apparaissait comme une frontière. On pensait que tout allait changer à partir de là.
Ouais, mais on n'a toujours pas les bagnoles volantes. Et ça, c'est un scandale.
Qu'on n'a toujours pas les
voitures volantes. Ah,
no solo eso, sino que no nos vestimos todos de plateado, como pensaba.
On n'a pas non plus de costume argenté.
Ben, certains, oui, quand même, dans le milieu de la télévision.
Y de todas formas ahí teníamos una frontera marcada que la ciencia ficción se dedicó a repasar una y otra vez.
Ah, c'est une frontière.
Estoy en un error. Hay gente que sí que viste de plateado.
Y a tout de même des gens qui portent des costumes argentés ou des tenues platinées.
En definitiva, el año 2000 era una frontera.
Donc l'an 2000 était une frontière.
Que la ciencia ficción había rebasado muchas veces.
Que la science-fiction avait dépassé maintes et maintes fois.
Y la ciencia ficción, y no solamente hablo de fronteras tecnológicas, también de fronteras psicológicas.
Il s'agissait pas seulement de frontières de frontières
psicológicas, mentales.
Il s'agissait également, oui, donc de frontières psychologiques, mentales.
La ciencia ficción ha especulado sobre todas esas cosas.
La science-fiction a spéculé sur toutes ces choses.
¿Cómo será el ser humano cuando...
À quoi ressemblera l'être humain quand...
Comment sera notre relation, par exemple, avec un clone, nuestro?
Quel sera notre rapport, par exemple, à un de nos clones?
Aún no hay clones moviéndose por la Tierra.
Il n'y a pas encore de clones qui se baladent
sur
la Terre.
Mais la science fiction a exploré les sentiments d'une personne hacia.
Mais la science-fiction a exploré les sentiments qu'un être humain peut avoir vis-à-vis de son propre clone.
De ce point de vue, à part de la histoire esta de irnos por las ramas que hemos escogido et tal.
Donc, si on laisse. Oui, continue.
La esencia es que la science-fiction, para mí, es la literatura de la frontera. Porque
pour moi, la science-fiction est donc la littérature de la frontière.
Está siempre alejándonos hacia un punto a partir de unos conocimientos que tenemos hoy en día.
Il s'agit toujours de s'éloigner de nos connaissances actuelles, en fait, de notre environnement actuel.
Et justement, là-dessus, moi, je voulais revoir par rapport au dépassement, par rapport à ce que tu disais.
sur la contamination et le dépassement. Je pense justement que la science-fiction, comme elle ne se place pas dans le réel, peut se permettre de ne pas se baser sur le rapport de contamination dans la frontière, mais plus dans le dépassement. Et je trouve que c'est aussi ce qui ressort dans Cygnis, dans ton bouquin, sur la frontière entre le robot et l'homme. Ce qui est permis par la science-fiction ne l'est pas tout le moins encore dans le réel.
Ouais. Alors, ça me fait penser que là, on vient d'élaborer un peu dans le discours le rapport à l'inconnu. Et au fond, ta question m'amène à penser, est-ce que c'est pas aussi une manière de se réapproprier le connu ? La thématique du corps, la thématique du robot, la thématique du clone, le rapport à son propre corps, qu'on connaît a priori assez bien, on peut le redécouvrir et se réapproprier le connu en étant confronté à quelque chose d'autre ou qui nous ressemble par un effet miroir. Et c'est aussi une frontière, le corps du robot et le corps de l'être humain en relation, ça s'interroge mutuellement, pour autant que le robot ait une bonne intelligence artificielle. Et là, je crois qu'on peut réélaborer le connu, et peut-être une forme de dépassement, peut-être une forme de transcendance.
Ah oui, ça répond. C'était des pistes que j'essaie de vous relancer.
Contestando a lo que ha dicho,
pour répondre à ce que disait Vincent,
yo creo que es esencial y nunca tenemos que perder de vista,
je pense qu'on ne doit jamais perdre de vue,
que la ciencia-ficción como cualquier otra forma de literatura,
que la science-fiction comme n'importe quel autre type de littérature,
siempre habla de los seres humanos actuales y de los problemas actuales.
Parle toujours des êtres humains actuels et de la société actuelle.
Si especulamos con el futuro, es como, por ejemplo, yo.
Si es. Vas-y.
Sí. Bueno, hay una anécdota, hay un cuento musulmán.
Il y a un slogan de maison d'édition dont je ne citerai pas le nom, ça serait pas fair play, mais ce sont des histoires de futur pour réinventer le présent. C'est ça que tu dis.
Que habla de historia de sí, sí, pero en cierta forma lo que digo es, esto es muy interesante, pero lo que digo es otra cosa. Hay un
en fait, je parle d'autre chose.
Hay un cuento árabe.
Il existe un conte arabe
que dice que varios ciegos
qui dit que plusieurs aveugles
tocan a un elefante.
Touchent un éléphant.
Uno toca la trompa
y en un qui touche la trompe.
Otro toca las orejas y otro
en un qui touche les oreilles.
El culo.
Et un autre qui lui touche les fesses.
Y cada uno cada uno luego cuenta una versión distinta del aspecto que debe tener el elefante.
Et après chacun en fait donne sa propre version de l'aspect qu'est censé avoir l'éléphant.
Para uno es una especie como de
percepción.
Para uno es una especie de serpiente.
Il y en a un qui dit que c'est une espèce de serpent.
Otro es un bueno, cada uno saca su versión de lo que es
donc
el elefante.
Chacun donne sa version de l'éléphant.
De la misma forma, si estamos muy cerca de esta mesa, somos una hormiga en esta mesa, tenemos una perspectiva distinta de lo que es esta mesa.
Comment?
Si somos una hormiga, una fourmi.
Ah, si donc nous sommes une fourmi, nous allons avoir une perspective complètement différente, par exemple, de cette table qui est là devant nous.
Pero si nos alejamos, podemos tener una visión más real de lo que.
Mais si nous éloignons, nous pouvons avoir une vision plus réelle, en fait.
De... Si cogemos la hormiga, la alejamos de la mesa.
Si nous prenons la fourmi et que nous l'éloignons de la table.
Le construimos una versión en miniatura del elefante a un ciego para que la vea en su totalidad.
Et on lui construit donc une version en miniature de l'éléphant dont on parlait tout à l'heure avec les aveugles.
Creo que la ciencia ficción actúa como una lente.
La science fiction enfin peut agir, peut avoir un effet de loupe.
Una lupa, hein? Que nos aleja del objeto.
Qui nous éloigne de l'objet.
Que l'objet somos nosotros, nuestra realidad cotidiana.
L'objet c'est nous, notre réalité quotidienne.
Y nos permite interpretar la mejor que estando dentro.
Et la science-fiction donc nous permet d'interpréter, de mieux interpréter cette réalité qui nous entoure, notre quotidien, notre présent.
Oui, ou devrait. Ce matin, j'ai fait une anecdote. Ce matin, je lisais le journal. Et je tombais sur cette chose assez étonnante, la visite du Premier ministre anglais en Chine. Il arborait sur sa veste une fleur de coquelicot, ce qui pour lui avait un lien, donc signifiait quelque chose par rapport à sa culture, notamment au Commonwealth, une commémoration. Et les Chinois ont failli causer un incident diplomatique parce que pour eux, c'était une provocation qui leur rappelait l'épisode des guerres de l'opium. Donc, moi, quand j'ai lu cette anecdote, j'ai pensé à beaucoup de livres de science-fiction, justement, qui avaient évoqué ce terme. Je pense notamment à ce livre d'Orson Scott Card, j'ai oublié le nom, mais ça arrive, c'est sur une planète où les colons sont systématiquement enfoncés dans des arbres par les autochtones.
Ah, la voie des morts.
La voie des morts, voilà. Et voilà, donc quand on dit que la science-fiction devrait nous permettre de mieux voir les choses, effectivement, ça devrait. Et la science-fiction a déjà traité ces thèmes-là qu'on peut retrouver au quotidien, finalement, de façon moins dramatique, mais nous rappelle que l'histoire de la frontière, la notion de frontière, est omniprésente, et peut-être même finalement plus dans la réalité que dans la science-fiction.
Et dans des endroits où on la soupçonne jamais. Oui. Hein.
Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va peut-être passer pour une ou deux questions dans le public.
Juste une petite remarque, parce que tout d'un coup, je viens de réaliser...
On a une question, Georges.
Oui, mais je fais quand même cette remarque. On est en train de dire la science-fiction être préexistant emploie telle méthode, tel thème. Or, ce que je réalise tout d'un coup au cours du débat, c'est que nous avons en fait la littérature qui s'attaque à certains thèmes, et quand elle s'attaque à ce thème, on dit ce n'est plus de la littérature, c'est de la science-fiction.
Ok, une autre question.
Merci. Là, en fait, c'est aussi une remarque plus qu'une question. C'était par rapport à ce que vous évoquiez. Il y avait Eric Lhomme qui parlait de la frontière toujours repoussée vers l'Est en Amérique du Nord, et Juan Miguel qui parlait plutôt de l'assimilation des civilisations précolombiennes. Et je pense qu'en fait, c'est deux cas distincts, dans la mesure où il y a un cas qui représente vraiment une forme de colonisation, dans le sens où il y a un besoin de Lebensraum, d'espace vital, et dans l'autre cas, où il y a peut-être plus une question d'exploitation d'un empire colonial qui cherche à exploiter plutôt qu'à vraiment s'installer sur les endroits qui colonisent. Et donc finalement, si les soucoupes volantes viennent un jour nous rendre visite, il y aura peut-être soit ils viennent parce qu'ils ont besoin de nous piquer notre pétrole, notre uranium, des fleurs ou je ne sais quoi, et à ce moment-là, ils auront, entre guillemets, besoin de notre civilisation, entre guillemets, pour qu'on exploite tout ça nous-mêmes et puis qu'on leur refile derrière. Et à ce moment-là, on continuera d'exister. On aura toujours nos petits panneaux locaux avec nos langues locales, avec en plus le double en standard galactique, en klingon, je ne sais quoi. Ou l'autre option, où ils viennent parce qu'ils veulent s'installer. Et là, effectivement, ils nous repousseront, ils finiront par nous parquer dans des réserves. Et puis à la fin, il n'y aura plus que des panneaux en klingon.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, du coup?
Dans tout ça, j'ai l'impression que on peut se poser la question, est-ce que ce ne serait pas un problème de... est-ce qu'on est assez humble pour aller voir les autres sans à la fois vouloir les exploiter, sans à la fois vouloir les écraser? Tout simplement, venir en visite, comme ça.
Je crois que le mot humble... est pas bon là, dans ce genre. Enfin, moi, c'est pas celui que je choisirais. Je pense que pour aller en visite chez les gens, il faut une sacrée sûreté de soi, justement. Pas de l'humilité. Il faut savoir qui on est avant d'avoir envie d'envahir, quelque part. Voilà. Pour moi, l'envahisseur, l'agresseur, de base, il n'est pas sûr de lui. C'est, il impose son modèle de façon non pertinente, en fait. Donc l'humilité ne serait pas l'une des qualités du visiteur. Par contre, la politesse, ça serait peut-être pas mal.
Yo lanzaría una pregunta.
Moi, je poserais à mon tour une question.
Et ¿Por qué queremos encontrarnos con extraterrestres?
Pourquoi est-ce que l'on veut rencontrer les extraterrestres?
Para colonizarlos, para intentar
¿Por qué queríamos
nosotros ir a encontrarnos con extraterrestres?
Ah, pourquoi voudrions-nous
queremos conocerlos de alguna
pourquoi
forma?
Pourquoi voulons-nous connaître des extraterrestres donc?
O encontrarlos por radio, no sé, o escuchar por radio sus mensajes.
Ou écouter leurs messages à travers
¿Cuál es el único interés
ondes, de quel est le seul intérêt de tout cela?
¿Cuál es el interés básico de encontrarse con una especie alienígena?
Dans le fait de rencontrer une espèce extraterrestre.
Porque yo creo que la respuesta a eso es está en por qué nos interesa la ciencia ficción, es decir, es por encontrarnos, voy a contestarla yo, pero mi para mí es encontrar otra civilización no tiene otro interés.
Pour moi, le fait de rencontrer une autre civilisation n'a pas d'autre intérêt
que vernos de otra forma a nosotros mismos.
Que en fait, on cherchera à travers ça à se trouver soi-même.
Solo tenemos una opción, una visión de lo que es la humanidad.
On a une seule vision, une seule option de ce que peut être l'humanité.
Encontrarnos con otra visión totalmente distinta.
Le fait d'être confronté à une autre conception
sería una revolución para nosotros mismos.
Serait une révolution pour nous-mêmes.
Por eso mismo, porque nos veríamos desde una perspectiva a nosotros mismos.
Justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on se verrait à distance en fait, à travers une autre perspective.
Para mí es el único interés de un encuentro con alienígenas. Sí.
Pour moi, c'est le seul intérêt d'une rencontre avec des extraterrestres.
En fait, il va aller chercher un psychothérapeute dans l'espace.
Pero un psicoterapeuta para toda la humanidad.
Pour toute l'humanité.
C'est vrai qu'on attend toujours que l'inconnu ou celui qui vient de contrées exotiques nous révèle quelque chose sur nous-mêmes par ce regard d'exception. Et je me reconnais bien dans ce que dit Juan Miguel.
Je pense, oui, effectivement, que là on peut s'arrêter là-dessus sur le fait qu'il faut aller dans l'espace pour rencontrer notre psychothérapeute.
Sur Terre, à Paris, c'est 40 euros. Hein. Ça vaut pas un programme spatial.
Oui, mais c'est pas efficace.
Tout le monde n'est pas guérissable, Georges.
Je pense aussi que... ce n'est peut-être pas nécessaire, dans un premier temps, d'aller très très loin dans l'espace pour rencontrer des civilisations auxquelles on ne comprend absolument rien. Il suffit d'aller se perdre quelque part au milieu de la Chine ou alors dans l'Inde.
Ou à Barcelone. C'est de sacrés extraterrestres à Barcelone.
Eh ben on va se permettre de conclure. Donc Eric, Vincent, Jeanne et Juan seront en dédicace juste après à l'espace librairie. Et...
Après la clope.
Après une clope. Et je voulais aussi vous rappeler que juste après, il y a une rencontre avec Dmitri Gloukovski. Alors, mais c'est dans l'espace de Madame Spock. Et j'ai un trou, je ne sais plus ce qu'il y a juste après nous ici. Donc, à vos petits programmes. Et à tout bientôt. T'en as un ? Super. Parce que j'ai révisé avant, mais j'ai un trou là. Alors, juste après nous, c'est une conférence sur « Irons-nous visiter les étoiles ?» Comme ça, pour voir notre psychothérapeute. C'est exactement ça. On finit avec une magnifique transition.
Chemin pour chez le psy.
C'est ça.
C'est ça, voilà.
C'est quelle ligne de bus et tout. Merci à vous. Vous aussi.